Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, et comme promis, nous allons tenter de comprendre qu'est-ce qui a détraqué l'économie mondiale ces dernières années, qu'est-ce qui a détraqué le capitalisme, et pour nous en parler, Yvan Allaire, merci beaucoup d'être avec nous. Yvan, vous êtes président du conseil d'administration de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques. Vous avez une longue carrière de consultant en économie, en conseil stratégique. Vous êtes maintenant professeur émérite de stratégie à l'UQAM, professeur associé au HEC. L'Institut a un pied aussi à Concordia. Et vous avez écrit avec votre collègue et conjointe, Mihaela Firsirutu, j'ai bien prononcé?
Parfaitement.
Ce livre qui m'a absolument passionné, Black Markets and Business Blues, The Man-Made Crisis of 2007-2008 and The Road to a New Capitalism. Alors, je traduis, Marché noir et dépression des affaires, Business Blues, si on
et
veut.
Et déprime, oui.
Déprime des affaires. Comment la crise de 2007-2008 a été faite par l'homme, ce n'est pas un acte de Dieu. Et la route vers un nouveau capitalisme. Alors, tout un programme, et nous allons tenter de démonter une partie de ce que vous écrivez. D'ailleurs, il y a une synthèse de ce livre qui est disponible en français. Les gens iront sur le site du Cerium, on va faire un lien pour qu'ils puissent se le procurer, ou sinon le livre est dans les bonnes librairies. Bon, alors ce que vous expliquez, Yvan Allaire, c'est que, en fait, depuis une trentaine d'années, il y a une transformation qui s'est faite, disons multiforme, qui a fait en sorte que la grande entreprise GM, GE, qui avait un modèle assez stable, a été transformée, parfois à son corps défendant. Vous identifiez la montée de trois marchés, le marché des produits et services, le marché du talent et le marché financier. Alors, prenez-nous par la main. Et expliquez-nous en quoi ces trois développements ont changé les choses.
Oui, très bien. En fait, elles sont aussi, ces trois marchés sont aussi interreliés. Et donc, changement dans l'un imprime des changements à l'autre. Commençons par le marché financier, peut-être, parce que c'est celui qui me semble au cœur, véritablement, de cette dynamique. À quelque part, autour des années 80-85, les caisses de retraite sont devenues des actionnaires importants et même majoritaires, les fonds institutionnels également, les fonds mutuels, les actionnaires majoritaires des entreprises. Bon, en soi, ça n'a pas de conséquences graves, ça, c'est un déplacement vers des fonds plutôt que des individus.
Dans la nature de qui possède l'entreprise.
Qui sont les propriétaires des entreprises?
Avant, c'était des familles et des individus.
Familles, des individus, quelques fonds, mais essentiellement, c'était ainsi. Alors maintenant, nous avons donc des actionnaires qui sont institutionnels. Et en même temps, toutes sortes de déréglementations du système financier pour permettre d'abord au fonds une grande latitude de placement et évidemment, étant donné les sommes en jeu, parce que les caisses de retraite prennent des dimensions absolument gigantesques, évidemment, toutes sortes de nouveaux joueurs apparaissent, nouveaux joueurs financiers.
Bah, à l'avance, on va se souvenir de ça même chez nous au début, mais la caisse de dépôt, en fait, on lui disait, c'est nos retraites, donc vous ne prenez que des obligations fixes complètement sûres et très peu d'actions. Jouez pas en bourse avec notre argent.
Okay.
Mais petit à petit, on a dit, ben oui, ben allez-y, de plus en plus, jouez en bourse avec notre argent. Donc, ils sont entrés dans la propriété. Et vous avez un graphique là extraordinaire qui montre qu'il y a un moment où les fonds de gestion possède pour plus de 50% des 1000 plus grandes entreprises américaines.
Oui, c'est près de 70-75% maintenant.
D'accord.
Et oui, et au départ, pas d'actions étrangères, après ça, oui, des actions étrangères, enfin, etc. Pas d'immobilier, bien sûr, l'immobilier, enfin, etc. Donc, une grande latitude aux caisses de retraite. Mais surtout, c'est que les fonds qui sont propriétaires développent une perspective de courte durée. Mmh. Et même si une caisse de retraite a une perspective de longue durée, on les évalue. Vous savez, vous connaissez bien la problématique ici, d'ailleurs, au Québec. On les évalue chaque année. Alors, certains on voudrait chaque trimestre même. On rémunère les directions avec des systèmes de boni qui sont arrimés aux performances supérieures à la moyenne des autres fonds, etc. Donc, malgré que la problématique de la caisse de retraite soit de longue durée, la gestion, c'est devenu de courte durée.
Des résultats immédiats.
C'est encore plus vrai pour les fonds mutuels et les autres qui doivent envoyer à leurs déposants à chaque trois mois ou chaque mois même où ils en sont dans leur rendement. Donc, une pression qui subtilement s'est exercée sur la direction pour obtenir des rendements à court terme.
C'est ça. Alors, je vous arrête là parce que le changement pour vous, il est évident, pour nous moins, c'est que dans la structure, dans le modèle précédent, donc beaucoup d'actionnaires de GM, par exemple, très diversifiés, mettaient de l'argent là-dedans, prenaient leurs dividendes chaque année et étaient dedans pour 15 ans. Maintenant, on a des fonds de retraite et toutes sortes de fonds qui, eux, n'ont pas cette loyauté. Hein, c'est le mot-clé, loyauté de l'actionnaire face à l'entreprise, loyauté de l'entreprise face à ses salariés. Là, on a finalement des francs-tireurs qui n'ont pas de loyauté à l'entreprise et qui peuvent changer d'un mois à l'autre ou d'un trimestre à l'autre et qui demandent constamment un bon résultat.
Et le fait est que maintenant, la durée moyenne de détention des actions est autour de 7 mois.
De 7 mois, ouais. Par rapport à ce que
c'était 6 ans il y a quelques années, etc. Donc, évidemment, une réduction considérable, ça veut dire que donc une rotation des propriétaires, des drôles de propriétaires dont la propriété change à tous les 6 mois en moyenne. Mm. Donc, évidemment, pendant un moment, la direction résiste aux pressions. Elle pense qu'elle a des obligations à long terme pour l'entreprise et elle a les moyens de le faire. Cependant, on comprend bien, et là je vous fais grâce de exactement pourquoi, mais on comprend bien que si on arrimait mieux la rémunération des dirigeants à la valeur du titre, on les ferait travailler pour l'augmentation de la valeur du titre à court terme. Et on découvre la beauté des options sur le titre.
Alors, on a beaucoup d'options. Expliquez-nous ce qu'est une option.
Essentiellement, on dit aux dirigeants, écoutez, on va vous donner 100 000 options. Ces options-là sont exerçables au prix de l'action aujourd'hui. Mm-hmm. Et vous pouvez les exercer, là, il y a toutes sortes de règles, d'ici un an, d'ici deux ans, d'ici trois ans, mais vous les exercez au prix du titre à ce moment-là.
Okay.
Donc, si le prix est 20 $ aujourd'hui et qu'il est 40 $ dans trois ans, eh bien, c'est 20 $ fois le nombre d'options que je vous ai données que vous faites. Donc, les sommes deviennent rapidement considérables.
Et votre intérêt, c'est de faire monter le cours de l'action surtout, dans cette période-là.
Et éviter qu'il baisse. Il y a une espèce de nervosité qui s'installe à la direction. Vous êtes maintenant très riche sur papier. Vous ne pouvez pas encore exercer vos options. Si le titre baisse, évidemment, vous perdez tout.
Avant, on donnait un salaire important, assez élevé, mais qui n'était pas lié au cours de l'action.
Peut-être.
Qui était lié à
des mesures internes, le bonus, des mesures internes, des vraies mesures économiques. Moins volatile.
C'est augmentation des ventes.
Etc. Et souvent des objectifs qualitatifs. La qualité du climat dans l'entreprise, enfin, etc. On n'aime pas ça. Okay. On n'aime pas ça. On veut que ce soit quantitatif et assez rapide.
Quand on dit, c'est les fonds. Les fonds qui veulent le rendement
rapide. Et maintenant, une incitation à la direction de faire des actionnaires, de ces actionnaires volatiles et changeants, leurs véritables patrons. Maintenant, on travaille pour eux maintenant. Mmh. On oublie cette résistance qu'on avait à une époque. La résistance s'est atténuée grandement. Mmh. Et donc, on travaille de plus en plus pour ces fonds-là. Évidemment, ça a donné des résultats. Et autour de ça, évidemment, il y a le troisième marché. Ça, c'est le marché du talent. Parce qu'une fois qu'on a créé des options puis qu'on est prêt à payer des gens très cher, là, évidemment, des gens qui semblent avoir bien réussi ailleurs nous semblent très attrayants de l'attirer chez nous. Donc, on commence une négociation et donc un marché secondaire du talent qui n'existait pas avant.
Donc, avant, si vous l'expliquez bien dans le livre, il y a un genre de culture où on fait monter d'échelon en échelon.
Tout à fait.
Ça, et on choisit le meilleur qui s'est préparé à diriger l'entreprise.
Une sorte de méritocratie interne là, et qui faisait que les dirigeants sortaient toujours du rang.
C'est ça. Et maintenant que l'important, ce n'est pas tant de diriger l'entreprise, mais c'est de faire en sorte que le cours de l'action monte, on voit sur le marché des dirigeants d'entreprise ceux qui sont les meilleurs.
Ceux qui ont réussi à faire ça.
Voilà.
Alors, évidemment, il y a aussi une résistance. Il y a bien des entreprises qui n'acceptent pas ce modèle-là. Même aujourd'hui, General Electric continue à choisir ses présidents dans leur armée. C'est 35% des grandes entreprises canadiennes qui ont choisi leur PDG hors des rangs de l'entreprise. Donc, c'est suffisant pour qu'il y ait vraiment un véritable marché. Autour de ça, évidemment, il y a le marché des biens.
Attends, mais je vous arrête, je pose une autre question là-dessus. Est-ce qu'on a une idée? Bon, maintenant, on a changé le mode de sélection du dirigeant de l'entreprise parce qu'on a changé son mode de rémunération. Maintenant, qui performe le mieux? Est-ce qu'on a assez de recul pour voir ça?
Oui, il y a beaucoup d'études qui montrent que le recrutement à l'externe, ce n'est pas une si bonne idée que ça. Il n'y a pas toujours des échecs, mais dans l'ensemble, ce n'est pas l'expérience n'est pas très heureuse. En termes du fait qu'éventuellement, la personne a difficulté à performer comme on s'attendait d'elle, évidemment, les rémunérations étant énormes, c'est sûr, le problème que ça cause, ça crée tout à coup une espèce de distinction entre ce PDG qu'on a recruté à fort prix, parce que pour le déplacer, il a fallu qu'on lui offre beaucoup de choses, et les autres quarts des dirigeants d'entreprise. Donc, tout à coup, il y a cas.
Pour eux, c'est un étranger.
C'est un étranger. Il ne porte pas les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi il est si payé? Alors que nous, on est moins.
Et combien de temps il va rester?
Et combien de temps il va rester? Parce que s'il a un autre attrait, s'il a une offre attrayante, il va repartir. On devient mercenaire.
Donc là, on a vu tout à l'heure que la loyauté des propriétaires s'était effritée.
C'est ça.
Et maintenant, c'est la loyauté du dirigeant qui s'effrite.
Tout à fait. Il devient mercenaire et ça crée une espèce de classe de dirigeants mercenaires, mais l'ensemble des cadres ou des employés ne sont pas, peuvent pas se changer de poste à tout moment. Ils sont beaucoup moins mobiles, on vient moins les chercher aussi. Et donc, tout à coup, une classe de mercenaires qui sont prêts à tout faire pour que l'entreprise réalise des profits à court terme, pour satisfaire leur véritable patron, et la masse des employés qui paient le prix de tout ça. Et ça, cette situation. Et quand vous mettez autour de ça, justement, le marché des biens et services qu'on a ouvert à la concurrence, qu'on a donc dit maintenant, il faut performer en termes de coûts, les délocalisations, les déplacements, etc., tout ça sont extrêmement bienvenus et recherchés même par ces dirigeants mercenaires qui veulent bien sûr livrer la marchandise.
Parce que ça a un impact sur l'action.
Un impact sur l'action, c'est un impact sur le profit. S'ils ne le font pas, ils vont se faire changer.
Ah, et l'air, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que... Par exemple, des délocalisations. Alors, on sait très bien que aller en Chine ou au Pakistan baisse les coûts de production d'une partie. Que sans ce système renouvelé de rémunération, des entreprises n'auraient pas choisi de faire ces délocalisations.
Mais remarquez que la seule différence, c'est bien sûr qu'une fois qu'on a accepté la mondialisation des biens et services, il y a une conséquence. La seule différence, c'est qu'avant, mon premier réflexe comme dirigeant, soit de dire il faut absolument que j'aille en Chine ou aux Indes. C'est peut-être de dire, on est dans le même bateau, là, les employés et moi. Parce que moi, je ne suis pas un mercenaire, je suis de l'entreprise. Nous sommes des collègues depuis 20 ans. Comment peut-on ensemble se battre et éviter, justement, de délocaliser? Peut-être qu'on n'aura pas le choix, éventuellement.
Mais ce ne serait pas le premier choix.
Ce ne serait pas le premier choix dans le modèle. Ce ne serait pas le premier choix dans l'ancien modèle où on essaierait de se battre ensemble. Bon, il faudrait faire face à la musique, puisque cette musique-là, ce n'est pas nous qui la dirigeons.
Mais dans le nouveau modèle...
C'est très rapide. Ouais. C'est très rapide.
Ouais. Par exemple, il y a un cas extrême, je dirais, mais que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'en Circuit City, aux États-Unis, donc une entreprise publique avec le nouveau modèle, a décidé que ses coûts de main-d'œuvre étaient trop importants parce qu'il y avait des échelles salariales dans lesquelles les employés avaient grimpé à force de loyauté, hein, de rester là, et a décidé de virer tous ces employés qui faisaient plus de, je ne me souviens pas, 30 000 $ par année. Ils ont viré. Il disait, si vous voulez votre emploi, venez postuler pour un emploi à 10 000 $ de moins.
C'est ça.
On a beau être anticapitaliste, ce ne serait pas vu dans une entreprise de distribution américaine dans les années 60.
Même si on est très pro-capitaliste.
Oui.
Non, absolument pas. Et remarquez que, fort heureusement, je fais une parenthèse, il y a des entreprises hérétiques. Ce sera le prochain livre, d'ailleurs, les entreprises hérétiques qui refusent de jouer cette partie-là. Et à côté de ça, il y a un Costco qui, lui... volontairement paie cher ses employés. Il les garde, il veut les conserver. Les marchés financiers font pression sur la direction. Ils ne cèdent pas.
Oui, ben d'ailleurs, c'est Walmart-Costco. Alors, l'action de Costco est moins prisée que l'action de Walmart parce que Costco refuse de jouer au jeu de Walmart.
Oui, quoique maintenant, ça donne des effets parce que un personnel qui est engagé, un personnel qui aime l'entreprise, qui se sent bien traité par l'entreprise, aussi fonctionne bien, traite bien les clients, etc. Et donc, en fait, Costco fait mieux maintenant que Walmart.
Donc, on a parlé de ce marché du talent, de ce marché financier. Mais revenons donc sur cette question des fonds. Il y a les fonds de retraite, on comprend comment ça fonctionne. Et là, ensuite, il y a eu ce nouveau développement qui sont les hedge funds, qui prennent énormément de pouvoir. Qu'est-ce que c'est?
Ben, essentiellement, d'abord, c'est un abus de terme. Hedge fund, au départ, c'était des fonds qui vous disaient qu'on a des stratégies de placement qui font en sorte qu'on vous donne des rendements, mais qu'on vous protège à la baisse, si jamais il y a un... Donc, c'est hedge, donc protégé.
Okay. Un genre de garantie d'assurance.
Une façon de placer l'argent avec des mesures qui protègent à la baisse. C'est relativement facile à faire. Bon. Cependant, on a étudié le terme, on l'a galvaudé. Sur les 9 000 qu'il y avait, il y avait 10 000 de ces hedge funds en Amérique du Nord. Il y a à peu près peut-être 1 000 qui sont des vrais hedge funds, 9 000 sont des fonds de spéculation. Essentiellement, elles ramassent des sous. Au départ, c'est de gens riches, des gens qui veulent placer quelques millions pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Et là, on a toutes sortes de stratégies. Je vous fais grâce de toute la gamme des stratégies, mais essentiellement, c'est une recherche continuelle des imperfections de marché. Comment je peux faire de l'argent? Imperfections de marché, c'est dangereux ce terme parce que ça amène à en provoquer des imperfections de marché. Et la pire imperfection de marché, c'est évidemment d'avoir l'information d'initié.
Okay. Mais expliquez-nous, qu'est-ce que serait une bonne imperfection de marché? Ah, je recule juste un instant. Donc, il y a quelqu'un de riche Il sait que, de toute façon, il ne sera pas ruiné. Donc, il met une coupe de millions en disant, joue un peu plus risqué avec ça pour que je fasse encore plus d'argent. Je pourrais, moi, si je le perds, non, tant voilà, pis. Pas, si je double ou je triple, tant pis.
Fait du 20-30%. Okay. Et pour faire ça, le gestionnaire de fonds demande 2% de gestion et 20% des profits qu'il réalise.
Extrêmement.
C'est là qu'on a des fortunes extraordinaires. Mm-hmm. Sauf que sont apparus les Dr. Frankenstein du système financier. Et assez curieux, ce sont les caisses de retraite. Les caisses de retraite ont découvert qu'elles pouvaient, elles aussi, faire cela avec vos sous. Okay. Alors maintenant, les hedge funds, les grands hedge funds, les fonds de couverture, la plupart de leurs fonds viennent de caisses de retraite privées, caisses de retraite publiques, les fondations, là, c'est 90% de leurs fonds. Mm. Sans ces fonds-là, ce sont de petits joueurs. Je peux parler avec des spéculateurs, avec qui, si vous voulez faire spéculer avec votre argent, vous avez bien le droit. Mm-hmm. Mais maintenant, ce sont les caisses de retraite qui ont donné les moyens non seulement de spéculer, mais d'avoir des spéculations qui sont extrêmement puissantes, parce qu'elles ont les fonds pour le faire. Mm-hmm. Donc, elles sont capables de mettre à mal une entreprise, en pariant contre une entreprise.
Bon, alors, par exemple, si je suis intelligent dans un hedge fund, je me rends compte que il y a un différentiel entre le taux d'intérêt à long terme d'une obligation sur le marché japonais et celui sur le marché américain. Donc, j'utilise cet écart pour faire un peu d'argent. Ouais. C'est normal, c'est bonne guerre.
C'est les arbitrageurs.
C'est ça. Mais si j'ai quelques milliards de dollars dans mes poches, je peux décider de provoquer un événement et de gagner de l'argent avec cet événement.
Ce que je peux faire, c'est que je peux, par exemple, je vais prendre l'exemple le plus simple. Non seulement j'ai de l'argent que vous m'avez confié, avec tous les fonds m'ont confié, mais avec cet argent-là, dans un univers d'endettement facile, je peux aussi emprunter 10 fois ce montant-là.
Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier.
C'est ça. Donc,
j'ai un milliard, j'en emprunte 10.
C'est ça. Donc, j'ai maintenant 11 milliards, pour faire, 11 milliards pour faire les coûts. Et je regarde les entreprises, et si je sens un peu de vendée, je décide, par exemple, une chose, c'est de vendre à découvert les titres.
Vendre à découvert, excusez-moi.
C'est-à-dire que je prends une entreprise, je pense qu'elle est vulnérable. Je peux avoir raison. Là.
Elle a eu une mauvaise, un mauvais trimestre.
Elle est vulnérable. Donc, je vends le titre que je n'ai pas. Okay. Je ne l'ai pas, je le vends, je l'emprunte, le titre de gens qui l'ont, me le prêtent, je leur paie un montant et je vends. Et un jour-là, je devrais racheter ce titre-là. Mon hypothèse, c'est que le titre va planter. Le titre va tomber et je vais racheter, bien meilleur marché que ce que j'ai payé, et je retrouverai le titre que j'ai emprunté et je fais la différence entre les deux.
Je fais un pari sur l'échec. Et s'il y a échec, je gagne.
Tout à fait.
Mais comme je vends, je provoque l'échec.
Ben, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, là, sans tout entrer dans les détails. C'est clair, vous avez raison. Non seulement je vends, mais le risque, c'est que s'il y avait des rumeurs, s'il y avait de l'information négative sur ce titre-là, ça le ferait baisser. Est-ce que ce n'est pas une grande tentation, si j'ai des contacts dans le milieu, de diffuser de l'information qui me semble négative sur l'entreprise? Et ça, c'est le secret le plus mal gardé de ce qui se passe dans ce milieu-là.
D'ailleurs, il y en a un que vous citez, d'ailleurs, on l'a vu aux États-Unis, c'est Cramer. C'est son prénom? Comment s'appelait-il?
C'est ça. Jack.
Jack Cramer? Alors, Cramer qui était un hedge fund, un manager de hedge fund, qui maintenant a une émission sur la chaîne CNBC où il donne des conseils d'investissement qui parfois sont spectaculairement mauvais et qui expliquent que oui, l'important, c'est de dire quelque chose de faux et de créer une fausseté absolue sur le titre que vous voulez faire descendre alors que vous savez que c'est le contraire pour faire de l'argent.
La vérité est votre pire ennemi, essentiellement. Voilà. Oui, et donc c'est un exemple parmi d'autres, mais dans la crise qui est venue en 2007-2008, particulièrement 2008, on avait aussi découvert des instruments comme les assurances sur le crédit. L'assurance sur le crédit qui fait que je peux parier sur la dette d'une entreprise, sur la dette des hypothèques recueillies. Je peux parier maintenant sur la dette des pays sans détenir cette dette-là. Mm. J'en ai pas. Moi, je n'ai jamais investi dans ça, mais je pense que ça va baisser. Mm. Si ça baisse, la valeur de mon assurance va augmenter. Alors, je peux faire avec les sommes que j'ai des paris extraordinaires. Et ce qui fait que si je fais bien ces paris, ce n'est pas si sorcier quand on est très près de ça avec l'information. Là, les sommes sont faramineuses, on a un pouvoir. On critique la rémunération des dirigeants. Bon, j'en veux, je veux, mais les 25 gestionnaires de fonds de couverture les mieux payés ont gagné en 2007 5 fois la rémunération des 500 PDG du S&P 500.
5 fois la rémunération des 500
PDG. Pour être sur cette liste, il fallait faire 360 millions pour entrer sur les 25. Le premier en haut faisait 2,3 milliards.
Par année.
Dans une année.
C'est incroyable. Ouais, c'est... Bon, alors donc, compte tenu du fait qu'ils ont accumulé ces sommes et qu'ils ont développer ces façons de trouver des failles ou de générer des failles dans le système, donc leur capacité de pression sur les chefs d'entreprise est décuplée.
Et non, parce que beaucoup se sont donné justement cette vocation. Ils s'appellent maintenant des activistes, des actionnaires activistes. Bon, les actionnaires, les fonds de retraite essaient de, bien sûr, de faire pression pour qu'on ait des votes consultatifs sur la rémunération, etc. Mais eux, c'est autre chose. Ils prennent des participations et là, tout de suite, demandent des gestes très dramatiques pour faire monter le titre.
Par exemple,
ils vont dire, il faut que vous montiez l'entreprise. C'est simple. La meilleure façon de faire monter le titre d'une entreprise, c'est de la vendre. Mm. Il y a toujours une prime à vendre une entreprise. Alors, si le titre est à 25 $, j'ai réussi à la faire vendre, je vais faire à peu près 30 à 40 sur ça habituellement.
Donc, il y a une série de fusions, d'acquisitions qui n'ont de sens que pour faire monter le titre.
On fait pression pour ça. Et avant, la direction se battait. Vous vous rappelez les LBOs des années 80. La direction se battait contre ça. Mm. Maintenant, la direction se bat, mais moins, parce qu'elle gagne, elle aussi, beaucoup.
Beaucoup d'argent avec ses options. Ouais.
Oui, et toutes les options et tous les programmes de rémunération variable qui ne sont pas payables deviennent payables, monnayables le jour où il y a une transaction.
Donc, le nouveau dirigeant d'entreprise dans ce nouveau modèle, il a intérêt à faire monter le titre boursier, si ça veut dire délocaliser, briser le syndicat, dépecer son entreprise en petits morceaux, tous ces événements vont faire
endetter son entreprise.
Mmh. Tous ces événements vont faire monter le titre boursier et vont lui faire faire beaucoup d'argent. Et de toute façon, il vient d'arriver il y a 3 ans. Il va partir ailleurs dans 2 ans.
Il va mesurer le moment de son départ, bien sûr, parce qu'il a le nez dans l'air, il voit ce qui se passe, il va choisir le moment de son départ. Mm. Et c'est un système très dangereux. Et c'est pour ça que nous, on ne peut pas considérer que ce système, j'ai déblatéré sur ce système à Davos, je le fais partout, parce qu'on ne peut pas. Heureusement, le Québec, le Canada, on a beaucoup d'entreprises avec des actionnaires de contrôle. On a beaucoup d'entreprises avec des actions en vote multiple. On a beaucoup d'entreprises qui sont totalement privées. Évidemment, cette partie-là ne se joue pas. Elle ne se joue pas de la même intensité. Mm-hmm. Donc, ce que nous proposons, nous, c'est d'aller vers une forme de propriété d'entreprise qui diminue l'importance de ce modèle.
Bon. Alors, on sait qu'il y a eu une crise en 1929. Il y a eu un président qui était Franklin Delano Roosevelt qui a créé une série de réglementations qui ont fonctionné essentiellement jusque dans la fin des années 70 et qu'il y a eu des récessions, mais il n'y a pas eu des bulles financières comme celles qu'on vient de vivre. Enfin, on en a vécu une très grave, on en a vécu une avant. Et qu'à partir des années 80, il y a eu une pression forte des groupes financiers pour, en fait, défaire ce que Franklin Roosevelt avait fait. Et là, la question qui se pose, c'est que devons-nous faire maintenant? Faut-il simplement rétablir ce que Roosevelt avait fait ou faut-il penser autrement dans un nouveau contexte? Dites-nous ce que vous en pensez.
Oui, mais la loi Glass-Steagall, beaucoup voudraient y revenir, qui était celle qui faisait ce départage des institutions financières. On ne pouvait pas être banque et banque d'affaires et courtier et assureur dans une même société. Mm-hmm. Je pense que ceci est remis sur la table depuis quelques jours, quelques semaines.
Mais là, de dire aujourd'hui qu'il faudrait démanteler les grandes banques américaines pour séparer, donc d'une part, leurs activités bancaires normales et leurs activités de courtier. Ah, c'est une énorme affaire.
Oui, mais ça pourrait se produire. Il y a beaucoup d'appui politique, là, ça. Enfin, l'appui populaire, je devrais dire. L'appui politique, on verra. Mm-hmm. Vous connaissez le système américain, c'est plus compliqué qu'à première vue, on le pense.
Mm. Alors, comment sortir les œufs, le jaune d'œuf et le blanc d'œuf de cette omelette qu'on a maintenant?
D'abord, il faut s'adresser aux causes immédiates de la crise. Bien sûr, il y a plusieurs des phénomènes de vente à découvert sans contrôle, enfin, etc. Les règles comptables ont joué un rôle. La non-réglementation des hedge funds, des fonds de couverture, tout ça a joué un rôle immédiat. On fait un chapitre sur tout ça, mais le chapitre principal, c'est comment on va aux sources du problème, au fond du problème. Et pour nous, le fond du problème, c'est de faire en sorte de rebâtir la loyauté dans l'entreprise, la confiance, le trust, dirait les Américains, les anglophones, dans et autour de l'entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment fait-on pour avoir un actionnariat plus stable, qui est capable de penser, et donc une direction qui est capable de penser à plus long terme, qui n'est pas soumis aux aléas du quotidien de l'entreprise. Et il y a plusieurs façons de le faire. Une très simple, nous on veut qu'il y ait une citoyenneté corporative, c'est-à-dire une citoyenneté d'entreprise qui fait que les gens ne votent pas leurs actions avant une année de détention.
Bon, et vous faites une comparaison avec les touristes, là.
Oui, c'est ça.
Expliquez-la.
Écoutez, on dit toujours, dans un pays, les touristes qui sont là le jour de l'élection ne votent pas. Mm-hmm. Et d'ailleurs, non plus, les joueurs sont rarement propriétaires du casino. Mm-hmm. C'est très dangereux d'avoir les joueurs propriétaires du casino. Et c'est un peu ça. On a les actionnaires qui sont de ce type-là, qui sont beaucoup des joueurs, hein, n'est-ce pas? Mais en même temps, ils sont les propriétaires. On dit non, les propriétaires d'entreprise, ce sont les actionnaires. Les actionnaires, ce sont ces joueurs.
Ce sont les joueurs, oui.
Alors donc, c'est un peu bizarre comme situation. On dit non, une année, et je dois dire qu'on a pris position en 2006 sur cette question. Au départ, ça horrifiait les gens des milieux financiers. Maintenant, on y vient. J'étais curieux de voir qu'à Davos, il y a beaucoup de réceptions à ça et que des propositions dans ce sens-là. Même la SEC aux États-Unis commence à penser que ce serait intéressant que des fonds pour avoir le droit de mettre des administrateurs en nomination doivent détenir leurs actions pendant un an.
Donc, pendant un an. De mais c'est court, un an, finalement.
Mais c'est
si
court,
avant,
mais...
c'était 6 ans.
Oui, mais c'est court, mais il faut comprendre que pour les fonds de couverture, c'est une éternité.
Ouais.
Pour eux, c'est une éternité de dire je ne peux pas agir avant un an.
Mm-hmm.
C'est pas parfait, c'est pas la seule mesure qu'on propose.
OK. Bon, d'abord, une citoyenneté. Comme si on vit au Québec, si on est citoyen et qu'on vit au Québec depuis au moins 6 mois, on a le droit de voter à l'élection. Où vous dites, il faut détenir l'action pour un an pour participer au processus.
La même logique, comprendre l'entreprise, la connaître, enfin, etc. Ce qu'on dit aussi, c'est nous sommes favorables aux actions à vote multiple, aux entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils gardent le contrôle de leur entreprise, que les familles puissent contrôler leur entreprise. Favorable aux entreprises restent privées, qu'elles n'aient pas en bourse, il faut qu'elles soient capables. Et c'est là que les grands fonds ont un rôle à jouer, les caisses de dépôt de ce monde, de faire en sorte de pouvoir financer la croissance des entreprises sans qu'elles soient obligées d'aller sur les marchés boursiers.
On va démonter, parce que vous allez trop vite pour nous. Alors, d'une part, ça, on a vu ça dans les journaux, il y a des entreprises, bon, il y a un actionnaire, un vote, mais il y a aussi des gens qui ont des classes d'actions qui leur donnent davantage de votes, 3 ou 4 votes.
10 votes.
Ou 10 votes.
Oui.
Bon, donc, au moment de décider du président de l'entreprise, des administrateurs, ben, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et ces classes, nous, notre réaction de démocrate, c'est de dire, ah, c'est épouvantable, un homme un vote, une personne un vote, mais vous dites, non, pour créer une loyauté, il faut maintenir ça. Comment, à qui et pourquoi?
D'abord parce que l'entreprise qui devient publique, c'est le produit d'un entrepreneur, d'un innovateur, de quelqu'un. Il y avait une entreprise publique. Nous, on dit que sa contribution à l'entreprise n'est pas le simple équivalent du capital argent qu'il a mis en ça. Moi, comme nouvel actionnaire, je mets 500 $, j'obtiens des actions. Mais lui, il a bâti cette entreprise, elle est sienne. Et donc, il a, à mon sens, droit à plus d'action pour sa participation à l'entreprise. Et d'ailleurs, plus il est engagé, plus il fait bien, plus j'en profite, moi, évidemment, comme actionnaire. Donc, je profite de son talent, je profite de son génie, je profite de son dynamisme. Je ne peux pas juste faire ça en disant, bon, ben on va être égaux maintenant, une action et un vote chacun. Il faut bien voir que si on bâtit des entreprises et qu'elles ont cette structure, ça fait en sorte qu'elles sont imperméables aux prises de contrôle. Elles sont imperméables aux actionnaires, activistes, fonds de couverture, elles ne touchent pas d'ailleurs aux entreprises. Je vais vous dire une chose, si on n'avait pas eu ce genre de structure de capital...
Au Québec, au Canada?
Au Québec, au Canada, Bombardier serait propriété de Boeing maintenant, CG serait propriété de, je ne sais pas, IDS ou d'un autre, Magna serait propriété de GM ou d'un autre. Pourquoi? Parce que en 2002, les marchés boursiers étaient à plat. Ça ne coûtait rien. Le dollar canadien, le dollar américain, un dollar 50, un dollar 62 même, à un moment donné. Alors, imaginez, c'était des occasions d'affaires absolument irrésistibles.
Donc, ce qui nous a protégés, c'est que les fondateurs de ces entreprises
ont le contrôle
parce que même si c'est une entreprise qui est en bourse, même si on peut acheter et vendre des actions, eux, par le fait que chaque action vaut 10 votes, ils ont le vote prépondérant ou la majorité?
Ils ont, dans la plupart des cas, ils ont plus de 50%
des votes. Plus de 50%
des votes. Même à 30-40% des votes, on peut pas acheter une entreprise.
Et ça, c'est notre système à nous, mais aux États-Unis, est-ce que ça existe?
Oui, mais justement, les gens me disent, oui, mais aux États-Unis, ça existe moins. Mais je rappelle bien que Google a la même structure.
Ah oui?
Que Berkshire Hathaway et M. Buffett, dont on vend, ont une structure de la même nature, les actions à vote multiple.
D'accord.
Bien sûr que le New York Times, les actions à vote multiple. Bien sûr que News Corp, les actions à vote multiple. Donc, les gens qui ont des entreprises, qui ont bâti, comprennent bien la valeur de cette stabilité de l'actionnaire. Et les actionnaires ne s'en portent pas trop mal chez Google ni chez Buffett.
Je suppose que les hedge funds
détestent ça. Et les fonds institutionnels aussi au Canada. C'est une grande bataille. Absolument éliminer ça parce que, bon, c'est pas démocratique.
Donc, la citoyenneté, un an au moins pour avoir droit à son mot à dire dans la démocratie interne des propriétaires. Les protéger ou étendre, dites-vous, les votes multiples?
En tout cas, que l'entrepreneur qui devient public, premièrement, l'entrepreneur devrait essayer de rester privé. On va être capable de financer sa croissance sans qu'il devienne public. S'il doit devenir public, pour toutes sortes de raisons, le financement, il devrait le faire en s'assurant qu'il garde le contrôle de l'entreprise pendant un temps.
OK. Ensuite?
Ensuite, écoutez, je pense qu'on a... on est en train de réévaluer, c'est presque une hérésie ce que je vais dire, on est en train de réévaluer quand même les sociétés d'État et leur rôle. Mais parce que il ne faut pas s'empêcher de voir ce que fait la Chine avec ses sociétés d'État.
Oui.
Et évidemment, cette combinaison des États cotés en bourse et la puissance qu'elles ont acquise, on a aussi appris comment les sociétés d'État pouvaient être gouvernées. Il y a eu bien des erreurs à la société d'État, mais on a aussi appris cela. On a aussi à redécouvrir, ou en tout cas à stimuler plus les coopératives.
Attendez, alors je reviens sur la Chine parce que vous êtes allé à Davos et vous avez écrit un compte-rendu sur la posture de la Chine à Davos et je vous cite « Avec une croissance économique qui ne connaît pas la récession, la Chine affirma subtilement à Davos la supériorité de son modèle sur celui qui faillit faire basculer les économies occidentales dans l'abîme. La perspective que le succès du modèle chinois perdure et suscite l'émulation des pays émergents donne le frisson. »
Oui, parce que c'est quand même un gouvernement autoritaire. Je ne vais pas rentrer dans les droits de la personne, tout ça, mais c'est sûr que c'est un gouvernement autoritaire et avec une économie progressivement libérée.
C'est ça, mais où les sociétés d'État restent,
jouent un rôle puissant.
Et d'ailleurs, plusieurs des sociétés, c'est pas les vieilles sociétés d'État chinoises, ce sont les nouvelles qui sont maintenant actives sur la scène internationale, qui veulent racheter les nôtres, qui veulent construire nos métros et nous dire comment les construire.
Les fonds souverains.
Les fonds souverains, etc. Mais donc, leur modèle de société d'État, nous, on ne peut pas les acheter. Ils ne sont pas dans le jeu. Alors, vous dites, on devrait faire la même chose ou quoi?
Ce que je dis, c'est... D'abord, je rappelle que des 10 sociétés ayant la plus forte capitalisation boursière au monde, 4 sont des sociétés d'État chinoises.
Ah bon?
C'est vraiment quand même
mais comment est-ce qu'une société d'État peut être capitalisée?
Parce qu'ils ont une partie de leur capital en bourse.
Okay.
C'est comme si l'Hydro-Québec, ils proposaient, ça met 30% de son capital en bourse. Ça serait une grosse société boursière, enfin une grosse valeur boursière.
D'accord.
Les sociétés d'État, il faut s'assurer qu'elles aient un rôle. Faut pas, autrement dit, je dis, c'est le mouton noir du capitalisme, société d'État. Donc, il faut réévaluer ça. Je ne sais pas, à tout craint, société d'État partout, mais il y a un rôle. Il faut apprendre à ce que ces États jouent leur rôle et qu'on apprenne de ce qui a été bien fait dans ce domaine-là et de ce qui a été mal fait. Je dis aussi les coopératives doivent jouer un rôle.
Ça m'intéresse beaucoup les coopératives, mais au Québec, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nos sociétés d'État?
Je pense que ce que ça veut dire, j'ai énoncé, nous avons énoncé dans le livre qui est assez caustique. Les sociétés d'État prennent la mesure de la maturité politique d'une société.
De quelle façon?
C'est-à-dire qu'une société qui est politiquement immature ne devrait pas avoir de société d'État, parce qu'elles vont tourner évidemment en ballon politique,
favoritisme, etc.
Donc, je pense que la société québécoise est politiquement mature. Ça veut dire que donc on peut se permettre de regarder ça. Je suis contre la privatisation de l'Hydro-Québec, par exemple. Je pense que ça joue un rôle important. On doit étendre, mais je pense qu'on doit regarder comment faire en sorte de tirer le maximum de nos sociétés d'État et de se donner une philosophie, ou en tout cas une politique sur où et comment on veut que les États jouent un rôle dans l'économie québécoise.
Donc, légitimer leur existence, leur rôle, c'est un des outils. Ce n'est pas comme beaucoup de néolibéraux le disaient jusqu'à récemment, quelque chose qui devrait finir par disparaître. Ça doit être quelque chose qui fait partie du paysage
tout
économique.
Tout à fait.
Les coopératives. Donc, moi, j'ai vu une étude qui montrait aux États-Unis que les entreprises du tiers secteur, coopératives, solidaires, appelons-les comme on veut, ont démontré la plus forte résilience dans la crise et, en fait, une augmentation de leur nombre de salariés pendant la crise, alors que, évidemment, il y avait du chômage ailleurs.
C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, il y a un mouvement aux États-Unis intéressant qui s'appelle MoveYourMoney.org qui massivement demande aux gens de déplacer leur argent des grandes banques coupables de cette crise vers ce qu'ils appellent les savings and loans aux États-Unis et donc les coopératives et les banques régionales ou les plus petites banques, etc. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, d'ailleurs, à l'échelle européenne aussi. Ce qui est remarquable, c'est que dans certains pays, les coopératives représentent une part importante du PIB de ces pays-là.
La Finlande. 8% en Europe en général, en Amérique du Nord.
La Finlande, c'est 14%.
14%.
Donc, au Québec, c'est 6%.
Okay.
Et ça, en fait, je devrais préciser que c'est seulement la part prise par les 300 plus grandes coopératives au monde.
D'accord.
Ce n'est pas les moins coopératives dans son ensemble, c'est une petite coopérative dont les statistiques...
Alors, pensez-vous qu'on aurait intérêt à faire exprès de faire progresser la part des coopératives dans notre économie?
C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est qu'il faut s'assurer qu'on ne leur met pas d'embûches. Par exemple, je sais qu'ils sont très conscients dans le domaine, beaucoup de coopératives sont dans le domaine bancaire et de l'épargne, que les règles de la Banque internationale, les règles de capitalisation qu'on va adopter au Canada, etc., peuvent facilement défavoriser les coopératives.
D'accord. Elles sont faites sur mesure pour les banques.
Pour les banques classiques, conventionnelles, etc. Et donc, on ne tient pas suffisamment compte de ça. Mm. Je pense aussi qu'on doit, je dis toujours, je fais mes coups de pas, que dans l'enseignement, dans nos écoles de gestion, les coopératives ne parlent pas. Sont tellement omnibulés par les IBM, les GE, GM, les Bombardier, Alcan, etc., qu'elles n'ont pas une grande place. Il y a des endroits, il y en a, mais je veux dire, dans les MBA classiques, là, je pense qu'il faut parler aux étudiants de ça.
Il faut former les futurs gestionnaires des coopératives aussi.
Et effectivement, il faut regarder comme une option ce qui est sur la table lorsqu'on a des enjeux. Vous remarquez que parmi les 300 grandes coopératives les plus grandes au monde, les Américaines qui sont dans le... Il y a quelques Américaines, et ce sont souvent des coopératives de santé. Mm. Vous avez compris que le débat, ne sont pas des coopératives qu'on a une voix. Alors, il y a deux, il y a Puget Sound et l'autre qui sont des coopératives de santé avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard. Mm-hmm. Et donc, il y a des lieux, des endroits où elles peuvent jouer un rôle remarquable. Il faut juste être alerte.
Vous savez quoi? Au Québec, on savait depuis longtemps, le premier employeur privé aux États-Unis, c'est Walmart. Au Québec, c'est le Mouvement des Jardins. Le deuxième employeur privé public au Québec, c'est le réseau des centres de la petite enfance. Saviez-vous?
Non.
J'ai appris ça la semaine dernière.
Ah bon?
Alors, vous aurez appris quelque chose et moi, j'ai appris énormément et avec nos auditeurs. Yvan Allaire, merci beaucoup de nous avoir pris la main pour nous expliquer à la fois les causes du problème et nous avoir exposé certaines pistes de solutions. Je rappelle le titre de votre livre « Black Markets and Business Blues » et je répète qu'on va mettre un lien vers une synthèse en français sur le site.